Lib Radio, la radio pas net, pire qu'un fixe et qui espère luette. www.libradio.org.
Bonjour Théo, nous parlons aujourd'hui depuis un bistrot pas loin du Palais de Justice où nous sommes en soutien aux camarades antispécistes qui sont actuellement en séance, en espérant que tout se passe bien pour elles et eux. Et nous voulions parler, nous voulions aborder une action dont tu faisais partie il y a peu, qui s'appelle le tourisme du pire.
Ouais,
alors, voudrais-tu nous en dire quelques mots, à quel moment ça s'est passé, où ça s'est passé?
Alors, moi, l'action tourisme du pire a eu lieu le 21 septembre. De cette année, donc il y a pas très longtemps, il y a quelques semaines. Et c'était une action organisée par plusieurs collectifs. Il y avait le collectif Break Free, il y avait la grève du climat. Et c'était dans le cadre de l'Action Week, la semaine d'action pour le climat, qui avait lieu en fait, si je me trompe pas, genre du 23 au 27 septembre, qui était donc la semaine juste avant, parce que le 27 il y avait la grève du climat, organisée dans pas mal de villes, dont Genève. Et d'autres villes dans le monde et de Suisse. Et le 28, il y avait la grande manif à Berne. Et du coup, l'idée, c'était une semaine d'action où on organisait plein de choses différentes. Donc, il y a eu pas mal d'actions qui ont été faites cette semaine. Un blocage de places de parking assez sympa. Il y a eu une action des condamnés à mort devant le Crédit Suisse aussi, qui disait par leurs investissements, le Crédit Suisse nous condamne. Et puis il y a eu cette action justement Tourisme du Pire, et du coup c'était, ouais, c'était vraiment très sympa et ça avait lieu dans ce cadre-là. Ouais.
D'accord, donc c'était une déambulation. Mm-hmm. Et alors quel est-il ce Tourisme du Pire et qu'est-ce que ça désignait?
Alors ouais, c'était l'idée, donc on connaît, certaines personnes connaissent Genève, il y a pas mal de façades de Genève finalement, et il y a plein de tours de visite guidée possibles. Et là l'idée c'était de montrer un tour un peu alternatif. Mais pas alternatif en mode on va montrer les lieux festifs, les lieux alternatifs, etc. Mais plutôt montrer une autre face de Genève qui est très présente, mais qui est parfois moins visible ou cachée, parfois, ou pas. Ça dépend justement dans les lieux. Il y a certaines, c'est des grandes enseignes qu'on repère bien au loin. D'autres sont plus mystérieuses. Mais du coup, donc l'idée c'était de déambuler de manière ludique et joyeuse. Et avec des copains, et puis de se promener un peu, et puis de voir, de montrer ces lieux, de parler un peu de ça, et le tout de manière théâtrale, de bonne humeur, et de dénoncer bien sûr toutes ces entreprises, ces banques, ces fonds de placement qui investissent massivement dans les énergies fossiles. Donc c'était ça un peu l'idée de base.
D'accord. Voudrais-tu nous dire quelques étapes et ont-elles été problématiques?
Au tout début, donc on s'est retrouvé devant à la place des volontaires devant l'usine, et on était donc une trentaine. C'était vraiment très sympa, il y avait une bonne ambiance, une team très sympa. Et en fait, assez vite, on a vu que il y avait des choses qui étaient pas prévues. Pas prévu, on sait toujours qu'on peut s'attendre à ça, mais on pensait pas dans une telle mesure. On a vu des flics en Robocop. Donc en tenue anti-émeute, quoi, à moto qui tournait autour de l'usine. Et puis on a cru que c'était lié à autre chose au début, parce qu'on était 30 avec des mini pancartes en carton, et puis des trucs drôles. On avait un bonhomme en carton, et puis on avait toutes des habits un peu délirants et tout. Donc on était vraiment en mode festif et joyeux, des petites feuilles de notes, tout ça, des petits trucs guides, etc. Et là on voit des flics qui tournent. Au début on a cru que c'était pour autre chose, puis finalement au fur et à mesure on a vu que c'était à peu près le même itinéraire que nous, puis ils nous tournaient autour, puis on a finalement compris que c'était bien pour nous. Et donc déjà là, ça on était là, ah bon. Et puis il y avait pas mal de gens qui n'avaient pas forcément l'habitude de venir dans ce genre de choses, et puis qui étaient vraiment choqués, qui étaient là, mais c'est pas possible, comment ça se fait, etc. Et ouais, donc c'est dingue.
Mmh. Quels étaient les objectifs de cette balade, de ce tourisme du pire, et ont-ils été selon toi atteints?
Certains objectifs, celui de montrer certains lieux justement qui participent énormément aux investissements dans les énergies fossiles, de dénoncer ça, sensibiliser certaines personnes là-dessus. Moi-même, je me suis pas mal sensibilisé sur la chose, parce que il y avait plein de choses que je connaissais pas du tout, et en préparant ça, ça m'a permis d'en savoir plus. Et puis aussi aux yeux du grand public, on avait des petits flyers qu'on distribuait pour les gens autour, donc on leur parlait un peu de ça. Et après, il en est ressorti une petite vidéo très sympa là-dessus. Et puis là, on fait ce podcast, donc de parler un peu de ces lieux, voilà. Et puis on a aussi dénoncé ce qui s'est passé après, parce que donc ça s'est pas limité à la répression, c'est pas limité à, enfin, juste défiler de force de l'ordre, quoi. C'était un peu plus que ça, quoi. Donc ouais.
Oui, très bien. La vidéo, la trouve-t-on sur les réseaux sociaux, sur un site internet, et quels sont les sites qui sont du coup impliqués? On pourrait citer breakfreesuisse.org, je crois.
Ouais, c'est ça. Ouais, je crois qu'elle est sur le site de Breakfree, peut-être sur YouTube, peut-être sur les réseaux sociaux, je crois.
Voilà. D'accord, mais assez facilement, en mettant tourisme du pire, on la trouve.
Je crois que oui, ouais. Peut-on grève du climat aussi, ouais, sur le site de grève du climat.
Absolument, Climate Strike, ouais.
Voilà,
peut-on dire que la police a d'une certaine manière été vos chargés de com, dans le sens où ça a permis de faire un petit buzz, et puis du coup ça a interrogé, ça a questionné les personnes qui ont vu cette disproportion qui avait cours.
Ouais, en quelque sorte, parce que les flics sont peut-être notre meilleur public, je sais pas, mais... sont toujours très présents à nos manifestations, toujours à l'heure, même en avance, c'est vraiment incroyable. Mais oui, on s'attendait pas. Et puis donc on est passé d'abord devant Citibank et le Crédit Agricole, sans qu'il y ait rien de spécial. Et ensuite, c'est en arrivant évidemment à Bel Air que là on a vu l'étendue des forces policières, parce que donc à Bel Air, il y a à la fois le Crédit Suisse et UBS, surtout le Crédit Suisse qui flippe, parce que le Crédit Suisse est la première banque suisse qui investit dans les énergies fossiles, 3e européenne et 14e mondiale, si je me rappelle bien, selon le rapport BankTrack, qui est aussi trouvable en ligne. Je crois qu'il faut juste taper BankTrack, il y a les derniers rapports qui sont là, tous les chiffres, etc. Donc je connais pas les chiffres par cœur, donc vous pouvez regarder. Mais donc c'est là, en arrivant devant le Crédit Suisse de Bel Air, qu'on a vu une ligne de flics qui nous attendait là, d'anti-émeute, le fourgon de police qui était déjà prêt. Et puis nous on était juste là en train de chanter des petites chansons, on n'a même pas sorti trop de slogans, et puis on faisait nos petites présentations, nos petites devinettes ludiques sur les chiffres des investissements, etc. Et pendant ce temps, il y avait cette ligne de flics à côté de nous, c'était assez insensé, quoi.
Alors comme tu dis, là c'est un entretien un petit peu à brûle pour point, donc tu as pas les chiffres en tête, on les mettra tous, on mettra en annexe au libellé du podcast, comme ça les personnes pourront aller ensuite consulter les différents sites qu'on a cités, et puis tous ces chiffres-là. Quel type d'interaction a-t-il eu lieu avec la police? Est-ce que vous avez quand même réussi à discuter un petit peu avec eux? Ou est-ce qu'assez rapidement, c'était de l'ordre de la menace? Ça, c'est le premier volet de la question. Et le deuxième volet, c'est, et ensuite, quel risque encourez-vous? Est-ce que, par la suite, va-t-il y avoir des répercussions?
Après de passer devant le Crédit Suisse, là ça s'était bien passé, on s'est pas trop attardé devant, parce que justement on n'avait pas du tout envie de risquer quelque chose, c'était pas l'objectif en l'occurrence de cette petite action. Mais par contre, en fait, en arrivant ensuite dans le passage des Lions, où se trouvait justement BlackRock, et vous pouvez vous renseigner sur BlackRock, qui est vraiment une entreprise détestable, qui se trouve dans le passage des Lions, donc semi à l'intérieur, là les flics sont venus à la fin de notre petite présentation pour nous mettre la pression. Et puis comme je parlais à ce moment-là, pour me mettre la pression et demander mes papiers, le but c'était pas de faire trop de problèmes, et puis ils étaient beaucoup et tout, du coup j'ai donné ma carte d'identité en pensant que ça allait calmer le truc, quoi. Et puis elles ont pris en photo ma carte d'identité, et ensuite ils nous ont dit c'est plus possible de continuer à l'intérieur, enfin c'était semi l'intérieur, mais bon, du coup on voulait apaiser la chose, et on s'est dit d'accord. J'ai dit pas de problème, on continue, mais on est dehors, on gêne personne, on gêne pas la circulation, il y a pas de souci. Et c'était la seule étape à l'intérieur prévue. Tout le reste c'est dehors, donc on va pas faire d'autres choses dans ce genre. Et puis elle dit ok. Donc c'est important, je pense, c'était une policière. Et juste ensuite, on continue, on s'arrête devant JP Morgan qui est rue Basse. Et juste ensuite, en traversant, je crois que c'est la place de la Fusterie en face,
Ouais. Oui, je crois bien que c'est ça, Place de Fusterie.
Et là, il y a plusieurs flics qui arrivent vers nous et qui nous disent arrêtez-vous, vous avez continué alors qu'on vous a dit d'arrêter. Et puis là, on était là, non, on nous a pas dit d'arrêter, on nous a juste dit de faire attention, de pas gêner, de pas rester trop de temps, de pas aller à l'intérieur, etc. Et Là, évidemment, c'était des policiers mecs en plus qui étaient devant, et elle était derrière. En fait, elle avait été totalement, enfin, c'est ce qu'on est plusieurs à avoir vraiment cette impression la dernière fois, désavouée par ses collègues. Et puis, nous, on a discuté avec elle, poliment et tout, et puis, elle nous a dit qu'on pouvait continuer en faisant attention ici. Et puis là, c'était, non, non, on vous a dit d'arrêter, vous avez pas respecté, et du coup, vous avez une première amende pour rassemblement non autorisé devant la JP Morgan puisqu'on avait soi-disant continué, et chaque fois que vous allez vous arrêter vous en allez avoir une nouvelle bûche, ils nous disaient, voilà. Donc nous on était là, enfin comment ça, et puis ils ont commencé à foutre la pression assez agressif et agressive. Il y avait donc une personne qui filmait, une autre qui prenait des photos, et puis la personne qui filmait, elle a été un peu intimidée et elle a dû arrêter de filmer. Celle qui prenait des photos a dû supprimer les photos qu'elle avait prise, enfin, donc la police n'a pas supprimé d'elle-même les photos parce que elles font un peu attention quand même, mais a intimidé la personne et l'a contraint, on pourrait dire, à supprimer les photos du moment de la discussion avec la police. Heureusement, le seul truc positif, c'est que celui qui filmait a pu quand même laisser tourner le son, et du coup, il y a un peu d'enregistrement. On entend quand on discute avec les policiers, policières, et puis, ouais, bah, ils étaient assez agressifs et ils nous ont dit c'est pas possible de continuer, ça va pas. C'est un rassemblement non autorisé. À partir de 4 personnes, ça peut être un rassemblement non autorisé. Donc, on était là, bah, c'est un peu bizarre. Et vous avez des pancartes, on nous a dit, alors que c'était des trucs en carton. Et du coup, on a essayé de jouer le jeu de l'apaisement et on a dit on peut enlever les pancartes et on continue quand même. Et ils l'ont dit non, c'est pas possible, c'est déjà un rassemblement autorisé maintenant, voilà. Donc c'était vraiment un prétexte, tout était utilisé comme prétexte pour nous emmerder, quoi. Et puis du coup, je savais que je risquais, comme j'étais étiqueté comme organisateur, ce qui n'était pas le cas puisque c'était une organisation de plusieurs personnes, pas mal de gens, je risquais déjà une amende pour ça. C'était pas du tout le but, et puis comme la police mettait la pression et c'était pas l'idée, il y avait beaucoup de gens qui étaient choqués, et puis on avait envie de parler de ça un peu. Du coup, on s'est retrouvés sur l'île Rousseau, on a continué ensemble sur l'île Rousseau, et puis là, donc là, la police nous a laissé tranquille, et puis on a fini là. En fait, on a parlé des lieux qui nous restaient à parler, donc c'est-à-dire Mercuria, Gunvor, Trafigura, Bunge et Cargill, donc surtout des entreprises, des traders, et puis des entreprises actives, enfin responsables de la crise amazonienne. Donc on a surtout parlé de ça, et ensuite on a fait un débriefing un peu sur ce qui s'est passé, on a raconté ce qui s'est passé, puis on a fait un peu un tour pour raconter notre ressenti par rapport à ça, et il y avait beaucoup de gens qui étaient vraiment choqués et qui étaient là, c'est dingue, c'est intolérable, enfin donc c'était assez surprenant quand même à ce point-là.
Ah bah oui, comment toi tu expliques ce zèle? Qui a derrière la police? Parce qu'à un moment donné, elle ne vient pas de son propre chef. Il faut que quelqu'un soit porté plainte, soit signalé quelque chose d'illégal. Voilà. Est-ce que de ce côté-là, vous en avez un petit peu parlé?
Ça s'inscrit dans une intensification de la répression en général, et particulièrement, enfin là, c'est par rapport au mouvement climat qui sont très tranquilles. Par rapport à d'autres luttes, c'est très tranquille, mais le fait qu'il y ait plus en plus de mobilisation, etc., ça fait craindre évidemment certaines choses, et donc du coup il y a une volonté de nous mettre la pression et de nous faire peur à tout moment. Et ces derniers temps on a aussi eu d'autres, de plus en plus de juste soi-disant de contrôle d'identité, de contrôle de routine, etc., qui nous visent systématiquement, et donc ça devient vraiment à répétition, et puis difficilement tenable, quoi.
Ouais. C'est une question, alors je sais pas si t'as envie d'y répondre, mais je la pose quand même. Et puis après, évidemment, si des questions surgiraient, eh bien, un micro est ici ouvert pour toutes et tous. Selon toi, à l'aune de ces élections fédérales où on a vu une sorte de poussée, pourrait-on dire, des verts, est-ce que des choses pourraient changer? Est-ce que ça peut être un nouveau levier sur lequel vous pourriez vous appuyer pour changer un petit peu ce rapport de force?
Alors les résultats sont quand même plutôt positifs. Il y a quand même eu pas mal de plus il y a plus de sièges maintenant à gauche. Les verts ont renforcé leur députation, et puis c'est cool, à Genève, il y a la gauche radicale avec Ensemble la gauche qui a obtenu un siège. Donc ça, c'est vraiment bien. Par rapport à notre sensibilité, on s'inscrit pas mal là-dedans. Et après, du coup, on a différentes positions dans les différents collectifs. Des personnes ne croient pas trop à la politique institutionnelle. D'autres y croient à moitié, dans le sens veulent peut-être quand même s'investir un peu dedans, mais sans y croire totalement, et donc tout en se mobilisant par d'autres manières, dans la rue et d'autres façons. Donc du coup, cette vague, elle peut aller dans notre direction et contribuer à ce rapport de force, mais en tout cas on croit pas qu'elle va être suffisante pour régler nos problèmes, et donc du coup on compte pas se réduire à ça et se dire ah bah c'est bien, le rapport de force a un peu changé au Parlement, du coup maintenant tout va bien. Non, il y a un léger signal dans notre direction, mais on compte se battre dans la rue et ailleurs pour que les choses s'améliorent nettement, quoi. Voilà.
Donc s'il faut lancer un appel ou plusieurs appels, ce serait de rejoindre ces collectifs et ces groupes tels que Break Free, tels que Climate Strike. Mm-hmm. Donc on peut lancer cet appel-là. Les personnes peuvent vous rejoindre assez facilement via les réseaux sociaux, via les sites internet, vous accoster de cette manière-là.
Tout à fait, ouais. Il y a plein de collectifs qui luttent pour le climat, et donc dont à Genève, c'est deux et d'autres que vous avez cités. Donc ouais, c'est vraiment chouette. Ouais.
En numéro 2, une prochaine balade tourisme du pire est-elle déjà agendée, ou cette idée-là vous habite-t-elle ?
Oui, peut-être. On n'a pas encore fixé du tout, mais ouais, d'autres idées joyeuses dans le même genre, peut-être un peu différentes, mais en tout cas, on aime bien tout ce qui est animation ludique, théâtrale, festive, etc. Un peu lié art et activisme, donc faire des trucs un peu artivisme comme ça. Donc ouais, on compte encore en refaire, pas forcément tourisme du pire, mais dans cet esprit-là. Et tout en faisant aussi d'autres des manifestations, on travaille sur la grève justement, enfin grève non seulement des étudiantes étudiants, mais aussi de généraliser ça avec les travailleuses et travailleurs, etc. Différents moyens d'action. Donc ouais, on teste plusieurs choses et puis on regarde où ça mène. On essaye quand même de trouver du plaisir là-dedans et d'essayer de changer un peu les choses quand même, mais sans se satisfaire vraiment, parce que ça va trop lentement et puis vraiment pas toujours dans la bonne direction, donc il y a beaucoup de travail à faire et la répression s'intensifie.
Oui.
Donc un long travail.
Cet aspect pédagogique et ludique, est-ce pour vous une centralité assez nouvelle tout de même, parce qu'on connaît peu ça dans les luttes a priori, est-ce pour vous une singularité que vous avez vraiment envie de continuer et de mettre en avant?
Ouais, vraiment trop. C'est vraiment un aspect fondamental pour plusieurs personnes dont je suis proche. Et c'est vraiment quelque chose de fort. Bon, moi je pense que, enfin, il faut pas que la lutte soit un sacrifice. Il faut pas que ce soit quelque chose de rébarbatif. Oui, la vie est dure. Il y a énormément de violence. Et du coup, c'est toute la rage qu'on a envie de sortir. Elle est nécessaire. Et puis voilà, il y a plein de manières de la sortir et elles sont toutes bonnes, parce que cette rage est légitime. Du coup, je comprends plein de manières de faire. Donc je recommande, enfin je dis pas du tout aux gens de faire ça, voilà, mais je pense que c'est un moyen parmi d'autres chouettes qui peut sensibiliser les gens, et on peut prendre beaucoup de plaisir en faisant des trucs vraiment super dans cette direction-là, et puis voilà, tout en ayant aussi plein d'autres moyens d'action. Faut pas se limiter non plus à ça, mais c'est une part aussi des choses qui me semblent vraiment chouettes.
C'est une des pistes, ouais. Voilà. Hormis la vidéo dont on a dit qu'on la retrouverait, ce podcast qui sera également disponible, y a-t-il des documents vers lesquels on pourrait se tourner? Parce que tu as cité notamment un rapport
Banktrack,
donc ça en mettra effectivement aussi le lien. Mm-hmm. Mais le travail que vous avez fourni, est-il accessible? Y a-t-il, je ne sais pas, un document auquel on pourrait se référer qui permet de savoir ce que vous n'avez pas pu dire?
Sur le site de Break Free, il y a quelques documents par rapport à ça. Peut-être sur le site de la grève du climat aussi. Et puis ouais, on doit faire pas mal de travail là-dessus. Et c'est clairement quelque chose qui n'est pas du tout encore assez fait, quoi. Mais on va essayer de plus faire. Mais plus de documentation par rapport à ça, des petites explications, etc. Parce que c'est vrai que ça reste, l'information reste trop peu, enfin, trop détenue juste par quelques personnes.
Ouais.
Du coup, d'essayer de généraliser ça. Et par exemple, moi, là, j'avais la plupart des choses dont j'ai parlé lors de cette visite tourisme du pire, j'étais pas au courant 3 jours avant. Et c'est vraiment en préparant ça que je me suis dit que c'était une bonne occasion, et du coup ça m'a fait apprendre plein de choses, et donc du coup ouais, c'est en faisant des recherches là-dessus, mais l'information est pas forcément ultra accessible pour tout le monde, donc ouais, d'essayer de vulgariser ça, de diffuser et tout, parce que voilà, on n'est pas forcément très au courant là-dessus.
Voilà, quelqu'un parmi nous parlait de capitalisme de l'ombre tout à l'heure. On peut dire effectivement qu'il y a toute une part occulte de ces informations-là qui sont difficilement trouvables. Et que voilà, une de vos nos mesures, c'est de les mettre à jour, de les divulguer, que tout le monde puisse se faire une idée avec les outils, de se faire une idée en conscience, mais avec l'ensemble des outils disponibles.
Mmh, ouais, il y a des super rapports justement qui sont faits par des ONG, des associations qui se bougent à fond pour étudier tout ça. Et ouais, c'est dommage que ça reste juste dans les mains de quelques personnes, et donc du coup bah, essayer de diffuser ça et tout, rendre plus accessible, parce que évidemment la plupart des gens ne sont même pas au courant, et puis si les gens sont au courant, faut encore que l'information soit facilement lisible, compréhensible, etc. Parce que bah, il faut avoir le temps de se plonger là-dedans, il faut prendre le temps, il faut avoir quand même certaines références et tout. Donc ouais, l'idée de diffuser ça serait de rendre plus démocratique cette information, afin d'être plus à lutter, et puis voilà, parce que ouais, l'information c'est aussi une force, un pouvoir.
Voilà, et puis on forme des opinions publiques souvent sur justement des informations manquantes ou biaisées, et ça c'est assez problématique au bout du compte finalement. Question calendrier, question agenda, qu'en va-t-il advenir de vous après cette action-là? Je voulais faire également le lien avec la prochaine date importante qui est le 12 novembre prochain, pour laquelle tu es impliqué, puisque plusieurs actions contre le Crédit Suisse qui mène Nicolas en l'occurrence, mais le collectif Break Free au tribunal de nouveau. Voudrais-tu nous dire quelques mots de cela? Alors voilà, premier volet, c'est y a-t-il un agenda? Faut-il veiller à des prochaines dates? Et puis quelques mots du 12 novembre prochain.
Ouais, alors on va organiser avec d'autres personnes ici autour de la table. Un rassemblement pour le procès du 12 novembre. Donc ce 12 novembre, mardi, il y a le procès donc de Nico qui est accusé justement, qui a été condamné pour des mains rouges sur le Crédit Suisse de Bel Air lors d'une manifestation en octobre 2018. Et du coup, il y avait plusieurs personnes qui avaient participé à ça, et la police s'est focalisée sur lui parce qu'elle avait vu qu'il y avait des bonbonnes, enfin des sprays de craie, en fait, c'était de la craie. Et donc du coup, à partir de là, il a été condamné. Là, il a fait opposition, et là maintenant, c'est son procès. Et donc nous, ce qu'on voulait faire, c'était de tourner ça du procès de Nico, de tourner ça au procès contre le Crédit Suisse. Contre les investissements dans les énergies fossiles de Crédit Suisse. Crédit Suisse qui est d'ailleurs aussi investi dans plein d'autres...
Ouais, ils sont bien impliqués.
Conneries, voilà. Ouais. Il y a tout ce qui se passe en ce moment, l'invasion turque du nord de la Syrie, du Rojava, et dont Crédit Suisse est aussi impliqué, et d'autres choses. Donc, ouais, donc cette tournée, ça, d'en faire le procès contre le Crédit Suisse, le procès du Crédit Suisse, et du coup de faire un petit rassemblement avec plein de choses prévues, par exemple des discours, une fanfare, des animations théâtrales festives, un atelier de désobéissance civile, et même à manger,
ouais,
une soupe à boire, voilà, plein de choses.
Ce sera sur l'esplanade Saint-Antoine le mardi 12 novembre prochain à partir de...
Alors, midi le rassemblement.
Voilà.
Le procès commencera à 10h30, sauf erreur, et les gens sont invités à venir dès midi pour profiter de toutes nos animations.
Et puis, bien entendu, qu'il fera beau temps à ce moment-là, et que même s'il fera pas beau temps, les gens seront présents. Et,
oui, on a une alternative mauvais temps aussi. Donc, venez de toute manière.
Très bien, très bien. Voudrais-tu juste dire quelques mots concernant Main Rouge, justement, pour que les personnes comprennent qu'est-ce que ça signifie?
Ouais, vraiment. Bah les mains rouges, par les mains rouges, on veut symboliser la criminalité du Crédit Suisse. Enfin, le fait que Crédit Suisse a les mains sales, et le rouge, c'est pour dire les mains pleines de sang, tachées de sang, le sang des victimes du Crédit Suisse. Et donc pour dire que oui, même si les chiffres sont très abstraits, et même en lisant le rapport Banktrack, c'est très intéressant. Et je vous conseille de le lire. Il faut aussi moi-même que je finisse la lecture du rapport, mais c'est très abstrait. Mais derrière, il y a des situations concrètes liées à ça, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des gens qui souffrent, des gens qui meurent liés à ça. Là, juste pour parler des investissements dans les énergies fossiles, mais plein d'autres victimes de l'armée turque, etc., qui est financée en partie par. Ouais. Par Crédit Suisse, qui finance l'armement, enfin bref. Donc tout ça pour dire que ce que fait Crédit Suisse, c'est très concret, et donc il faut rappeler toujours que ces chiffres-là et ces investissements-là, c'est des vies humaines, et que il faut se battre contre ça et dénoncer ça et visibiliser les crimes du Crédit Suisse.
Merci beaucoup Théo. Y a-t-il des questions qui surgiraient ou avons-nous été relativement exhaustifs?
Moi, je me permettrais juste de rajouter quelque chose qui a été important, en tout cas pour ma part, de réaliser. Donc, moi, je suis Vlad, je fais aussi partie du collectif Break Free. Et c'est vrai que, en fait, s'attaquer au Crédit Suisse, c'est pas simplement s'en prendre à une gentille banque suisse qui est ignorante de l'impact de ses investissements, parce qu'ils sont très, très au clair sur... sur qui est-ce qu'ils financent, pourquoi ils les financent. Et puis, ils ont été confrontés depuis déjà bon nombre d'années au fait que les sociétés dans lesquelles Crédit Suisse investit sont complices de crimes contre l'humanité, de non-respect des droits de l'homme, etc. Donc, ils savent tout. Ils ont eu des dossiers, ils ont eu des comptes à rendre. Le risk manager, c'est tout. Donc, vraiment, c'est vraiment une volonté de leur part de poursuivre là-dedans. Quand bien même il y a eu tous les rapports sur le climat, c'est la banque qui réinvestit le plus dans les nouveaux gisements d'énergie fossile. Donc c'est vraiment puis les gisements les plus à risque, donc les sables bitumineux, les extractions de pétrole dans la glace polaire qui est en train de fondre. Enfin bref, vraiment des trucs pire sales. Et voilà, c'est peut-être aussi pour ceux qui seraient pas au courant. On n'a pas affaire à de pauvres petits banquiers qui cherchent à nourrir leur famille, mais à de véritables sociopathes, selon mon point de vue. Voilà, je vais rajouter ça.
Eh bien, merci de la précision. Effectivement, ces implications sont multiples. Hein. Tu parlais de la fracturation du gaz de schiste, l'extraction de l'uranium était également très problématique avec l'activation in situ qui pollue les sites quasiment pour toujours. Toutes ces informations-là, et ainsi que cet agenda-là, peut-on le trouver en ligne et sur les réseaux sociaux? C'est pour terminer l'entretien. On va rappeler Break Free, etc. Dites-nous un petit peu où est-ce qu'on les trouve.
Ouais, il y a le site justement Break Free, les réseaux sociaux, hélas, c'est un média, sur Facebook, il y a des informations, donc voilà. Si on n'a pas Facebook, on peut aussi accéder quand même à la page, heureusement. Et puis sur YouTube, il y a la vidéo justement du tourisme du pire, et puis on a un travail vraiment à faire de plus diffuser tout ça, et donc, ouais.
Très bien.
Je rajoute que ce process est aussi l'occasion pour nous de remettre justement à jour toutes les informations qu'on a, de discuter aussi avec l'avocate qui va défendre Nicolas pendant le procès, pour remettre aussi à jour toute notre documentation et puis la rendre beaucoup plus visible et puis la diffuser plus largement.
On peut dire que le travail qui reste à faire est titanesque, mais qu'il est en cours d'être réalisé, en tout cas par plein de bonnes volontés.
C'est ça.
C'est génial. Merci Théo, merci beaucoup Vlad. Nous, on se retrouvera pour la suite des opérations et on mettra ce podcast à la suite du podcast avec Nicolas concernant son prochain procès. On le rappelle, le mardi 12 novembre. Donc les personnes sont conviées à partir de midi sur l'esplanade Saint-Antoine pour écouter les prises de parole, mais également partager un repas et puis écouter de la musique, etc. Peut-être même un atelier, mais ça c'est un petit peu la surprise encore.
Je crois qu'il a été annoncé sur le flyer, donc on peut dire qu'il y a un atelier sur la désobéissance civile qui est prévue après le procès. Donc venez nombreux, ça va être chouette.
Merci beaucoup à vous.
Merci beaucoup.
Ciao.